La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Cette fois, c'est sûr, les États-Unis ont bien déclaré la guerre des télécoms à la Chine.
Et c'est confirmé par le ministre de la Justice américain Matthew Whitaker qui dévoilait hier le dossier d'accusation contre la firme chinoise Huawei. 23 chefs d'inculpation en tout détaillés par le site spécialisé CNET. Et l'on comprend tout de suite que ça va bien au-delà de ce que l'on savait déjà sur le fait que le géant des télécoms asiatiques aurait contourné les sanctions américaines pour faire affaire avec l'Iran. Huawei, plus gros fournisseur de matériel de télécommunication au monde, second fabricant mondial de smartphones, un champion national pour la Chine, est donc accusé officiellement de fraude financière, d'obstruction à la justice et surtout d'avoir volé quantité de secrets industriels à ses concurrents occidentaux, de l'espionnage économique à très grande échelle.
En 2012, Huawei began a concerted effort to steal information about a robot that T-Mobile used to test mobile phones.
En 2012, accuse par exemple le ministre de la Justice américain, des ingénieurs de Huawei se seraient arrangés pour voler des informations sur un robot conçu par l'opérateur allemand T-Mobile pour tester ses téléphones portables. C'est cette même histoire qui retient l'attention du magazine spécialisé Ars Technica parce qu'elle illustre le vol, au sens littéral du texte, de la technologie concurrente. L'ingénieur chinois en cause aurait pénétré dans le laboratoire de T-Mobile, aurait tout simplement mis le bras articulé du robot dans le sac de son ordinateur portable et serait reparti avec pour le livrer à Huawei qui l'a immédiatement copié. Mais plus largement, nous explique Bloomberg, si les Américains veulent bannir Huawei de leur marché électronique, c'est par peur d'un espionnage encore plus grave. Si les Chinois arrivaient à s'imposer par exemple dans la construction du réseau 5G aux États-Unis, ils pourraient potentiellement contrôler toutes les connexions Internet, les objets connectés, pourquoi pas les caméras de vidéosurveillance qui fonctionnent pour la plupart grâce à des processeurs Huawei. Là, on ne parle plus d'espionnage industriel, mais de surveillance à très grande échelle. Voilà ce qui fait dire au Guardian ce matin que la guerre américano-chinoise des télécoms ne fait que commencer. Allez, pour notre deuxième sujet ce matin, nous restons aux États-Unis où la vie politique commence déjà à se polariser sur l'élection présidentielle de 2020. C'est dans 1 an, 9 mois et 5 jours, j'ai calculé. Mais déjà, l'opposition à Donald Trump voit fleurir les candidatures, une dizaine de postulants déjà sur les rangs chez les démocrates et il ne voit pas du tout d'un bon œil le dernier concurrent en date.
I am seriously considering running for president. And if I do, I will run as an independent. If I run for president, I will run as an American under one banner, the American flag.
Et oui, cette voix, c'est celle de Howard Schultz, ancien PDG de la chaîne de café Starbucks, milliardaire et fier de l'être, nous dit le New York Times, car lui n'est pas un héritier comme Donald Trump, non, lui a conquis sa fortune en partant des milieux défavorisés où il a grandi. Howard Schultz, sur le papier, c'est donc une candidature solide pour faire obstacle à un second mandat de Donald Trump, mais ce qu'il dit depuis dimanche, c'est qu'il réfléchit à se présenter hors du système bipartisan américain, sans passer donc par l'investiture démocrate comme candidat indépendant. Il dit vouloir représenter l'Amérique des invisibles, oubliée par un système politique en échec devenu fou, selon lui, à force de se diviser, démocrate contre républicain, sur des positions de plus en plus extrêmes. Howard Schultz a donc dit à CNN qu'il se donne 3 mois pour réfléchir à sa candidature, mais il n'aura peut-être pas besoin de tout ce temps, vu le déferlement de critiques qu'il essuie depuis dimanche, des dizaines d'élus démocrates ou d'éditorialistes qu'il accuse sur tous les plateau des médias de faire le jeu de Donald Trump. Voilà comment la chose était formulée hier soir par la chroniqueuse politique Anna Navarro, toujours sur CNN.
But listen, if what you want to do is help re-elect Donald Trump, then go at it. You're free to run.
Vous êtes libre de vous présenter en indépendant au centre. Allez-y, lance Anna Navarro à Howard Schultz. Si votre projet, c'est de faire gagner Trump et derrière lui, Poutine, alors oui, allez-y, présentez-vous. La critique est la même sous la plume de Michel Goldberg dans le New York Times, sous l'idée d'une candidature. Schultz est qualifié d'idiotie irresponsable. S'il se lance dans la course en solitaire, alors il affaiblira le candidat démocrate et il renforcera Trump. Le risque est trop grand pour être pris, plaide Michel Goldberg, qui rappelle pour ces mêmes raisons, en 2016, l'ex-maire de New York et lui aussi milliardaire Michael Bloomberg avait préféré renoncer à se présenter entre Clinton et Trump. Vanity Fair cite d'ailleurs le conseil que Bloomberg donne à présent à Howard Schultz. « Ta candidature, c'est une horrible idée », écrit-il à l'ex-patron de Starbucks, ce que Vanity Fair sous-titre. Howard prend une chaise, respire et « shut the fuck up », disons, boucle-la en bon français. Et puis j'en termine avec un crochet par Moscou et son musée le plus célèbre, la galerie Tretiakov, à la une de la presse russe, parce que dimanche soir, un visiteur y a volé un tableau. Les journaux moscovites ne se lassent pas de la vidéo de surveillance où l'on voit le jeune homme regarder la peinture, la décrocher et partir avec, sous le bras, au beau milieu des autres visiteurs qui ne bougent pas. Le voleur, nous dit le site d'info RBK, a réussi même à sortir du musée, à filer en voiture sans être pour le moins du monde inquiété. Et cette facilité déconcertante, elle alimente depuis des dizaines de blagues sur les réseaux sociaux russes. Le tableau volé, c'est un paysage de Crimée, la montagne Aïtengri du peintre Arhip Quinji, estimé à 160 000 euros. Le voleur a été arrêté hier. Finalement, c'est un homme de 31 ans, nous apprend la Gazeta, originaire lui-même de Crimée. Ce qui ne manque pas d'amuser la radio américaine en ligne, en langue russe, Radio Svoboda, pour qui le tableau n'a peut-être pas été volé, mais tout simplement annexé. C'est une référence à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie il y a maintenant 4 ans. Plus prosaïquement, le voleur travaillait comme chauffeur pour une famille de riches moscovites. C'est encore un peu maigre pour l'enquête, mais déjà les journaux évoquent le simple appât du gain ou bien une commande précise pour ce tableau faite par un collectionneur privé. Ce qui est sûr, conclut le média en ligne lenta.ru, c'est que ça repose la question la sécurité des musées russes qui laisse franchement à désirer et qui permet à peu près tous les vols et trafics, même au grand jour, comme dimanche. Le Kremlin lui refuse de généraliser ce qui s'est passé à la galerie Tretiakov, mais il lance tout de même un grand audit sur ce sujet de la sécurité des musées. Voilà Guillaume,
merci
pour
beaucoup.
La revue de presse internationale.